Leïla Chaïd, comment est-ce que vous voyez l'avenir à court et moyen terme du Liban ?
Je ne vois pas. J'ai le sentiment, vous savez que maintenant que j'ai pris ma retraite, je vis la moitié de l'année à Beyrouth, qui est la ville où je suis née. Je suis palestinienne, née au Liban. Et je me sens aussi libanaise que palestinienne. Je n'arrive pas à croire entre février, lorsque j'ai quitté Beyrouth, où il y avait une vraie révolution de la jeunesse libanaise depuis le 17 octobre, qui revendiquait la laïcité, l'égalité des femmes et des hommes, le non-confessionnalisme, la lutte contre la corruption. Et maintenant, combien de choses se sont passées ? Un, la dévaluation de la livre libanaise à 80% de sa valeur. Ça veut dire celui qui gagnait 800 euros gagne 100 euros aujourd'hui. Vous imaginez la déperdition du pouvoir d'achat des citoyens libanais. Il y a eu le corona qui a frappé très fort partout, inclus au Liban, avec la dévaluation, parce que vous savez, le Liban malheureusement ne produit pas grand-chose. Donc tout est importé, les masques, le gel, les seringues, tout ce qui concerne les soins à donner aux malades sont importés. Et comme il n'y a plus de dollars, il y a des manques dans tous les hôpitaux du pays. Puis arrive en plus cette explosion qui coûte quand même 171 morts aujourd'hui, peut-être 200 demain, et plus de 6000 blessés. Et pratiquement 40% de la ville détruite. J'ai l'impression que les dieux de l'Olympe ont décidé qu'il fallait jeter un mauvais sort à ce pauvre pays et surtout à sa population, parce que je n'ai jamais eu d'illusion sur sa direction politique. Elle l'a conduit à là où il est aujourd'hui. Mais quel est le crime de ces pauvres citoyens libanais pour être aujourd'hui dans l'état où ils sont ? Ça veut dire avec une capitale pratiquement détruite, une crise financière et économique terrible qui a commencé avant, une colère qu'il ne faut pas apaiser contre leur direction politique, parce que c'est elle qui les a menés. Ce qui a explosé est un nitrate d'ammonium que personne ne stocke pendant 6 ans dans un port qui est littéralement en plein centre-ville. Le port de Beyrouth, moi j'habite à Beyrouth, le port de Beyrouth il est à 2 kilomètres de chez moi. Il est en plein centre-ville parce que le port a toujours été, depuis les Phéniciens, le centre de la vieille ville. Il a grandi, devenu un port moderne. Mais le Liban ne vit que d'importation parce qu'il n'a rien à exporter, sauf ses cerveaux. Et donc, personne ne s'intéresse aujourd'hui à importer des cerveaux. Et donc, le Liban est dans une situation d'une telle gravité que je ne peux pas imaginer. Bien sûr, il n'y a plus de gouvernement. Il a démissionné sous la pression de la rue. Bientôt, le Parlement va démissionner parce que plusieurs députés ont démissionné. Le seul président qui a pris la peine d'y aller était Emmanuel Macron, avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Pas un chef d'État arabe n'est venu. Vous remarquez quand même. La solidarité arabe, ça me fait sourire. Et puis, je pense réellement qu'il faut à tout prix que ce malheur permette aux jeunes Libanais qui mènent cette révolution depuis le 17 octobre reprennent leurs revendications, parce que la seule raison pour laquelle ils ont arrêté leurs manifestations, c'est le corona. Parce que octobre, novembre, décembre, janvier, février, ils ont arrêté en mars lorsqu'il y a eu confinement. Et je pense que la seule bonne nouvelle de la dernière année pour le Liban, c'est ce mouvement du 17 octobre. Et s'il reprend le dessus, et s'il arrive à inverser le rapport de force entre cette classe d'oligarques corrompus, trafiquants, criminels, qui ont gardé les 2750 tonnes d'ammonium dans le port, peut-être qu'on peut imaginer dans quelques dizaines d'années un avenir. Mais pour le moment, c'est très difficile parce que ce mouvement social des jeunes, c'est un mouvement social, ce n'est pas des partis politiques. Alors il faut avant tout qu'ils puissent s'organiser pour proposer une alternative politique. Et donc, avoir des élections immédiatement avec la loi électorale qui est très confessionnelle, sur des bases confessionnelles, ça ne sert à rien. Il faut une nouvelle loi. Pour une nouvelle loi, il faut un nouveau parlement. Pour un nouveau parlement, il faut mettre à la porte les anciens parlementaires. Vous voyez, c'est un cercle vicieux.
La communauté internationale a peut-être un rôle à jouer. Vous avez évoqué Emmanuel Macron.
Oui, je dirais que, vous savez, je ne crois plus dans une communauté internationale à cause de la Palestine. Vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui, le lendemain de la déclaration de M. Trump, qu'il a favorisé la reconnaissance diplomatique, économique, sécuritaire entre les Émirats arabes unis et Israël sans aucune contrepartie, aucune, Parce que lorsqu'ils prétendent qu'ils ont empêché l'annexion des territoires de Cisjordanie, Netanyahou, une demi-heure après, annonçait que non, il n'a pas arrêté, il a juste suspendu. Donc c'est de la foutaise. Je le dis avec un terme vulgaire comme foutaise, parce que je suis très en colère. Et je trouve que nous sommes dans une situation aujourd'hui, lorsque je vois que M. Guterres, le secrétaire général, se croit obligé, parce que c'est les Américains qui ont lancé l'idée de saluer cela. Même le président Macron, je suis très fâchée contre lui. Je l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait au Liban, mais je suis scandalisée qu'il appelle ça un acte courageux. Qu'est-ce qu'il y a de courageux ? De donner, sans aucune contrepartie, une reconnaissance diplomatique à Israël, sans aucune contrepartie pour les Palestiniens, aucune. D'ailleurs, les Émirats Arabes Unis, en reconnaissant Israël sans contrepartie, ils cassent pour toujours la proposition arabe du roi Abdallah qui disait « La seule chose qui est la condition de notre reconnaissance, c'est la reconnaissance d'un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. » Les Émirats, en cassant cette promesse, ils cassent ce qu'on appelle l'initiative arabe qui dure depuis 2002 et qui inclut tous les pays arabes et même tous les pays musulmans. Donc, je suis fâchée contre le président Macron, je suis fâchée contre la communauté internationale qui, comme des moutons, parce que les Américains ont lancé l'initiative, disent c'est très courageux, ça va permettre de reprendre les négociations. Quelle négociation ? Avec qui ? Netanyahou ne reconnaît même pas un peuple, ni une organisation, ni une autorité nationale. Et il pense qu'il va faire la paix avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn et l'Arabie Saoudite qui sont à 3000 km de la Palestine. Non, ça ne va pas peser très lourd. Mais ça donne aux Palestiniens un sentiment de grande amertume à l'égard des pays arabes du Golfe qui pour moi sont des McDonald's. Des McDonald's issus du fait que le pétrole leur a permis d'être très riches et qu'ils ont mis toutes leurs économies dans les banques américaines et en dollars, et qui sont là. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que les Émirats Arabes Unis, avec les Américains, avec les Saoudiens, avec l'Égypte, c'est eux qui mènent la guerre contre le Yémen, où aujourd'hui, on a affamé un peuple, on a détruit une société, sans aucune raison, soi-disant parce qu'on combat les Houthis. Les Houthis, c'est des Yéménites, de religion chiite. Il y a au Yémen des chiites et des sunnites. C'est normal. Ils ont détruit un pays. Maintenant, les Émirats Arabes Unis financent la guerre en Libye. Et donc, c'est des succursales américaines et israéliennes. La seule bonne chose, c'est que maintenant, au moins, ils sont démasqués. On voit bien que c'est la politique qu'ils mènent. Ils pensent qu'ils vont pouvoir, comme ça, avec le soutien de M. Trump, lequel va aller dans la poubelle de l'histoire, gagner. Mais ils ne vont rien gagner. Mais pour la population palestinienne qui vit depuis 53 ans sous occupation militaire et 72 ans d'exil et de négation, ça donne quand même un sentiment de très grande déception à l'égard des habitants, pas du Cheikh, qui personne n'a jamais eu d'illusion sur lui, MBZ il s'appelle, Mohammed bin Zayed, comme on n'a pas d'illusion sur Mohammed bin Salman, le dauphin de l'Arabie Saoudite, mais de la population émiratée. Il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent aux Émirats Arabes Unis. Je ne voudrais pas être à leur place parce que c'est difficile d'être des Palestiniens accueillis, résidents dans les Émirats Arabes Unis parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux et d'avaler cette couleuvre.
Leïla Chahid, pendant un demi-siècle, au moins, vous étiez sur la scène internationale, vous l'êtes toujours un petit peu.
Un quart de siècle. J'ai été ambassadeur de Palestine 25 ans, mais je milite depuis un demi-siècle, oui.
Alors
je
justement,
milite depuis 67, oui.
Quel est votre moteur ? Qu'est-ce qui vous remplit d'énergie ?
La force et la vitalité de la société civile palestinienne, qu'elle soit en Israël, parce que nous avons 2 millions de citoyens palestiniens qui sont des citoyens israéliens par ailleurs, ils ont un passeport israélien, une carte d'identité. Ils ont aujourd'hui le troisième parti à la Knesset israélienne, c'est le parti de la liste arabe dirigé par Ayman Oudé. Ils ont 15 députés à la Knesset. Nous avons 5 millions de Palestiniens en Cisjordanie et Gaza et Jérusalem-Est. Nous avons 6 millions de Palestiniens dans la diaspora qui sont au Liban, en Jordanie, en Amérique, au Canada, en France, en Belgique. Et ils sont tous très convaincus de la justesse de leur cause. La justesse et la justice. Mais la justesse aussi, comme dirait Jean Genet. Et ils ne se laissent pas abattre parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose que rarement des peuples en conflit aussi longs font. ils ont reconnu le droit de leur ennemi. Ils ont reconnu le droit de leurs tortionnaires sur le plan humain à exister. Mais leurs tortionnaires n'ont pas encore reconnu notre droit. Et lorsque vous dépassez la haine, vous gagnez un combat magnifique contre vous-même. Parce que la haine, elle est avant tout autodestructrice. Les Israéliens et ces messieurs et dames du CRIF qui ont une telle haine pour tout ce qui n'est pas israélien et sioniste, ils sont avant tout autodestructeurs. Ils mènent les jeunes qui les suivent parce que la haine est quelque chose qui est comme un cancer qui vous ronge. Nous, on n'a pas de haine. Nous, on a dit on est prêt à accepter un État d'Israël à côté de l'État de Palestine. C'est très rare dans des conflits où il est évident que nous sommes encore sous occupation militaire et Israël vient de voter une loi qui dit uniquement les Juifs sont des citoyens naturels de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils font des 2 millions qui ne sont chrétiens et musulmans ? C'est quoi ? C'est un État d'apartheid ? Alors, qu'ils le disent depuis le début. Je vais vous dire, la force de cette société, son humanité, sa tolérance, son ouverture d'esprit, son niveau d'éducation, sa capacité de se renouveler, de faire des amis à travers le monde, dont beaucoup en France. Et moi, j'ai 71 ans. Je suis arrivée en 74, j'en avais 25. De 25 à 71, j'ai vu combien le milieu solidaire, militant, qui défend la Palestine en France et dans toute l'Europe a grandi, qu'il inclut des personnalités, dont énormément de personnalités juives, comme Edgar Morin, par exemple, qui se fait traîner dans la boue par M. Meir Habib, soi-disant le député des Français de l'étranger. C'est une honte. Et je vais vous dire, cette solidarité donne aux Palestiniens beaucoup de force. Parce que on n'a pas de pétrole, on n'a pas de missiles, on n'a pas de bombes nucléaires, on n'est pas des commerçants, mais on a des amis dans le monde. Et c'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de chaleur, pas de solidarité, vous vous sentez très seul. Eh bien, nous, nous sentons très entourés, très aimés, très soutenus. Et on finira par gagner, parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. D'autres sont passés par là avant nous, les Algériens, les Vietnamiens, les Sud-Africains. Le jour viendra où l'histoire prouvera que les Palestiniens ont droit à exister libres et indépendants comme tout le monde.